France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
On peut comprendre le réflexe, hein, on peut comprendre le ras-le-bol, des milliers de messages insultants, dégradants, à la fin c'est bon quoi, tribunal. En France et aux États-Unis d'ailleurs, s'agissant de Brigitte Macron, qui sert de point de départ à notre sujet de ce soir, mais de point de départ seulement. On sait très bien que les rumeurs sont très coriaces. Rumeurs, c'est le nom vintage de fake news, et je peux vous en citer 10 sans réfléchir et sans ouvrir Wikipédia. Les filles enlevées dans les magasins de vêtements à Orléans, la mort de Paul McCartney, la fausse mort d'Elvis, les Américains qui n'ont pas marché sur la Lune, les extraterrestres Thérèse de Roswell sur la base 51, le sida d'Isabelle Adjani, les décalcomanies au LSD. Toutes ces histoires folles sont nées à l'époque où on s'envoyait des messages avec des enveloppes et des timbres. Et ces histoires, elles traînent encore. Alors désormais que le numérique est partout dans nos vies, que les réseaux sociaux sont surpuissants, que rien ne s'efface, que nos traces numériques sont indélébiles, est-ce qu'une fake news est devenue impossible à casser, à débunker, à désamorcer, à faire taire, à étouffer? Est-ce qu'on peut assécher une rumeur quand on dit rien, c'est donc que c'est vrai. Si on dément, c'est aussi que c'est vrai, puisqu'on essaye d'embrouiller le bon peuple. Alors comment on fait? Est-ce que c'est foutu? Est-ce qu'il y a toujours un contre-discours possible? Est-ce qu'on peut assécher le terreau perméable aux fake news pour éviter leur propagation? Dans la défense du procès pour cyberharcèlement de Brigitte Macron, cyberharcèlement, j'insiste au passage, la justice n'attaque pas sur la fausse nouvelle elle-même, elle attaque sur la dégradation des conditions de vie de la victime. Donc dans la défense au procès de Brigitte Macron, on a entendu Esprit Charlie, on a entendu droit à la satire. Les fake news sont capables désormais de détourner à leur profit une liberté d'expression qui fait le socle de nos démocraties. Est-ce qu'on a déjà perdu cette bataille? C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Le premier, Hervé, c'est vous et vous êtes le bienvenu, bonsoir.
Bonsoir, merci de prendre mon appel. Donc oui, je disais à vos collègues tout à l'heure que quand j'étais au collège, alors j'ai 64 ans moi, donc j'étais dans les années 75, il y a eu un dispositif expérimental qui était proposé au collège sous la forme de... Alors mon prof, c'était mon prof d'allemand qui était bénévole, et puis bah, les collégiens étaient volontaires pour venir assister à ces cours-là, 2 heures par semaine de mémoire. Et en fait, c'était, je crois que ça s'appelait l'ICAV, Initiation à la communication audiovisuelle. Et puis ça permettait juste d'apprendre à décrypter les images, les sons, ce qu'on lisait,
ouais,
sur les films, les pubs et tout ça. Et il nous donnait, c'était passionnant.
Et pardon Hervé, je peux vous demander quel âge vous avez, de quel moment on parle?
Alors, on parle des années 75 à peu près.
Ah, ouais, ah oui.
Et moi, j'ai 64 ans.
Ah oui, d'accord. Ah oui, bah dites donc, vous avez eu un collège sacrément expérimental. Merci beaucoup, en tout cas Hervé, parce que ça fait une bonne entrée en matière pour notre discussion de ce soir, pour en parler ensemble autour de la table. Il y a Rudi Reichstadt, bonsoir.
Bonsoir.
Politologue et directeur du site Conspiracy Watch. Il y a Laurent Cordonnier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue et directeur de la recherche à la Fondation Descartes. Et Thomas Huchon est là également, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, Laurent, bonsoir Rudi.
Vous êtes journaliste spécialisé, Thomas, dans la lutte contre la désinformation. Vous avez notamment écrit « Résister aux fake news, comment faire face aux théories du complot, les plus contagieuses chez First ». Et c'était cette année. C'est fou ce qu'il nous raconte Hervé Rudi Reichstadt, parce qu'au fond, aujourd'hui on appelle ça l'éducation aux médias, ça existe encore, mais c'est pas généralisé. En revanche, toujours pas généralisé. C'est peut-être un problème d'ailleurs, quand on y songe.
Bah, vous savez, les pouvoirs publics font des choses.
Ouais.
Font des choses, c'est faux de dire qu'il n'y a rien qui est fait, ça repose souvent sur la motivation des professeurs, documentalistes, du corps enseignant en général, sur des initiatives qui ne sont pas toujours relayées par la hiérarchie ou valorisées comme elles devraient l'être. Mais il faut dire qu'il ne se passe rien, il se passe des choses, mais tout dépend de où et quand, et sans doute qu'on pourrait faire encore mieux.
Est-ce que, on se posait la question tout à l'heure en introduction, Laurent Cordonnier, est-ce que c'est fichu? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je prenais l'exemple volontairement de cette très vieille rumeur qui existe encore, qui sont dans une espèce de fond d'air comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, une info complotiste, de toute façon, elle est là pour rester?
Oui, elle est là pour rester, mais en réalité, c'est pas vraiment là que se situe le problème. Qu'une rumeur continue à exister dans les fins fonds d'Internet ou dans certaines cours de récréation, comme il y a bien longtemps. Le problème, c'est en fait quand ces rumeurs sont crues par une partie de la population, sont prises au sérieux, quand on les fait circuler, qu'elles vivent en réalité. Les théories du complot, les rumeurs ne meurent jamais, mais par contre, elles peuvent s'assécher au point de ne plus intéresser.
Mais comment ça s'assèche, en fait?
Ça s'assèche par désintérêt du public.
Ouais.
là aussi, il y a des aspects de nouveauté qui attirent. Mmh. Mais en même temps, on trouve toujours une énorme récurrence dans ces théories du complot. On a l'impression parfois que les complotistes sont très imaginatifs, mais en réalité, ils sont souvent décevants, parce que les mêmes théories du complot reviennent à peine altérées 10 ans plus tard sur un autre sujet. Ouais. Si vous regardez les théories du complot qui ont circulé durant la pandémie de Covid, vous aviez exactement les mêmes sur le sida, par exemple, au préalable. Donc il y a un manque d'imagination. Aujourd'hui encore, on a des théories du complot qui viennent du Moyen-Âge. Hein, le juif empoisonneur de puits pour expliquer les pandémies, on l'a revu, mais textuellement, visuellement identique pendant le Covid. Donc elles ne meurent jamais, elles peuvent se réactiver. Il y a des effets de mode, bien entendu.
Allez-y, Rudi Reichstadt.
Oui, je voudrais rajouter une chose, c'est que la différence avec il y a 50 ans, par exemple, c'est que vous voyez, la rumeur d'Orléans dont vous avez parlé en introduction, globalement, c'est une rumeur qui s'est asséchée, qui a apparu, qui a vécu, qui a largement disparu. Mais c'était un autre environnement informationnel.
Ouais.
Aujourd'hui, on s'informe via Internet, les réseaux sociaux, c'est un média cumulatif, Internet, qui sédimente, et on a aussi la possibilité pour chacun d'entre nous, armé de smartphones et d'une connexion Internet, de coproduire de manière collaborative des arguments complotistes. Donc on a affaire à des véritables cathédrales complotistes, argumentatives, très sophistiquées. C'est le cas d'un mouvement comme QAnon, par exemple, ou d'autres théories du complot qu'on voit émerger, et qui là sont des rumeurs zombies, c'est-à-dire qu'elles refusent de mourir, même quand elles ont été démontées, réfutées, débunkées des dizaines de fois.
Et en même temps, c'est vrai que la rumeur d'Orléans a été asséchée, mais quand on voit, alors effectivement, il faut traverser l'Atlantique, mais la fameuse rumeur dont a été victime même Hillary Clinton, disant qu'il y avait des trafics d'enfants à l'arrière des pizzerias, au fond, c'est la même. Hein.
Au fond, c'est la même, vous avez raison. C'est ce que disait Laurent Cobier.
Ça dit à peu près la même chose l'un dans l'autre. Mais au fond, si je comprends ce que nous disent nos amis Thomas Huchon, c'est qu'on ne peut pas agir sur la théorie complotiste, en fait. Mais en revanche, on peut agir sur ceux qui la reçoivent. Est-ce que vous dites que c'est déjà ça? Ou de toute façon, c'est la seule entrée? Qu'est-ce que vous en dites, vous?
Alors, je vous dirais déjà que c'est déjà ça, mais je même si je partage bien entendu à la fois l'analyse et la pertinence de ce qui a été dit par Rudy et par Laurent, je crois que la vraie problématique, c'est qu'effectivement, quand ces rumeurs commencent à être crues, quelque part, elles s'agglomèrent. Ça veut dire qu'elles vont disparaître pour l'immense majorité de nos concitoyens qui vont plus voir passer ce message, mais dans la tête de ceux qui ont cru, elles vont devenir des étapes constitutives d'une forme d'idéologie. Une idéologie de « on nous ment tout le temps, on nous cache en permanence la réalité », et qui vont devenir presque, d'ailleurs, d'une certaine manière, la base d'une vision du monde paranoïaque. On n'est plus dans l'idéologie, on est dans la vision du monde. Il y a un truc, alors peut-être que Laurent sera moins fan que moi là-dessus, mais qui s'appelle l'échelle de Bruder, qui permet de mesurer non pas l'adhésion de la population à une ou deux ou trois théories du complot, mais à une vision du monde complotiste. Ouais. Et en fait, je crois qu'il y a cet élément-là qui va venir effectivement se sédimenter dans la population, c'est-à-dire que ces rumeurs, même si elles ne sont pas crues, elles laissent une espèce de trace, et chez ceux qui les croient, elles construisent une vision du monde dans lequel, en fait, on peut vous mentir sur tout. Et d'ailleurs, ils s'intéressent autant aux grands événements du monde qu'aux plus petits, mais dans les grands événements de l'actualité, ils voient la capacité de mentir sur tout le reste. Mmh. Et donc, plus le cas est gros, plus finalement le mensonge sert d'espèce de paravent à une construction derrière. Là où il y a quelque chose de très embêtant aujourd'hui, c'est que Internet ne disparaît pas. Il y a 50 ans, peut-être qu'au Café du Commerce, on ne se serait pas souvenu de ce qui se serait dit le lendemain matin. Là, ça reste. C'est aussi un média de l'archive. Oui. Et il y a une espèce, comme le disait Rudy, aussi de construction de ces messages de la part de tout un tas de gens, volontairement pour toute une partie, involontairement pour tout un tas d'autres, qui tombent dans le piège et le partagent et qui sont dupes d'une certaine manière et qui gardent leur responsabilité, mais ils sont manipulés à la fois par des algorithmes et par des complotistes, et à la fin, la facture est salée.
C'est vrai qu'il n'y avait pas d'algorithme du Café du Commerce, et du coup, ça pouvait assécher les rumeurs très vite, mais je voudrais revenir, Laurent Cordonnier, sur ce que dit Thomas Huchon, et moi, ce que j'ai compris en cru en partie, c'est que parmi ceux qui retweetent, ceux qui repropagent des choses dont ils savent pertinemment que ce sont des théories complotistes, ne le font de toute façon que parce que le but ultime, c'est de dénoncer le pouvoir, dénoncer le grand tout ou je ne sais quoi. Donc, à la limite, peu importe en fait, qu'on parle de Brigitte Macron, de Isabelle Adjani ou de Albert Dujenneau, ça ne change rien finalement.
Ce que montrent toutes les études, y compris les miennes où j'utilise l'échelle de Bruder, donc c'est quelque chose que j'utilise aussi, c'est que le prédicteur le plus fort de la croyance à une théorie du complot donnée, c'est le fait de croire à une autre théorie du complot. Ouais. Et donc ça montre précisément ce que Thomas nous résumait là, c'est qu'il y a une espèce de pensée complotiste qui va faire, comme vous le disiez, feu de tout bois, de toute croyance. Et en fait, c'est là aussi qu'il faut se demander ce que veut dire croire à une théorie du complot. Probablement qu'on trouve des individus qui y croient au premier degré, qui croient vraiment à telle ou telle théorie, comme si c'était comme on croit qu'aujourd'hui, ce soir, il pleut, par exemple. Ouais. Mais la plupart des personnes qui adhèrent à une théorie, ils croient sûrement sur un mode qu'on a nommé avec mon collègue Gérald Brunner de proto-croyance. C'est-à-dire que c'est pas une croyance encore tout à fait constituée. Pourquoi pense-t-on ça? Mais c'est parce que les études ont aussi montré que les personnes, par exemple, qui croyaient le plus au fait que pendant la pandémie de Covid, le virus n'existait pas, c'était aussi les personnes qui croyaient le plus que le virus avait été créé pour tuer une partie de la population. Soit ces gens-là sont complètement idiots, ce qui n'est pas le cas, soit il y a une raison pour expliquer qu'ils croient à deux théories du complot qui sont contradictoires. Mais en fait, ce qu'ils sont en train de dire...
Ça n'a pas d'importance, en fait.
C'est que ça n'a pas vraiment d'importance. Eux, ce qu'ils sont en train de dire en disant croire à ces théories différentes et opposées, c'est qu'ils ne croient pas à ce qu'ils appellent la version officielle. Donc c'est cette défiance qui est le terreau de croyance aux théories du complot.
Est-ce que ça veut dire, Rudi Reichstadt, si je comprends bien ce que nous dit Laurent Cordonnier, est-ce que ça veut dire aussi qu'une théorie complotiste, elle s'assèche si on va bien, en fait, si la société va bien? Parce que il y a eu effectivement cette période au moment du Covid où tout est parti en sucette à bien des égards, on en a vu éclore beaucoup. D'ailleurs, y compris la rumeur Brigitte Macron a pris subitement des proportions dingues à ce moment-là. Donc est-ce que ça veut dire qu'une société qui sait assécher ses théories du complot est une société qui va bien?
Vous ne croyez pas si bien dire. Les sociétés dans lesquelles on enregistre le plus grand taux d'adhésion aux théories du complot sont globalement des sociétés, soit des démocraties faillies ou très malades, soit des régimes autoritaires. Ensuite, vous avez
La Russie, par exemple, je pense à un exemple de ce genre-là, une démocratie faillie, typiquement.
C'est compliqué d'avoir des chiffres. Ouais. En revanche, on a, quelles que soient les grandes théories du complot testées, des pays comme le Mexique, la Turquie, l'Arabie Saoudite, qui sont en haut du tableau, qui sont globalement deux fois plus complotistes que nous, Français, par exemple. Nous, on a des chiffres cohérents, je pense à une étude YouGov de août 2020, avec l'Allemagne, la Grande-Bretagne, etc. Et puis, vous avez le Danemark, où on croit grosso modo, là aussi, deux fois moins aux théories du complot qu'en France. Mais au Danemark, on a une confiance beaucoup plus affirmée dans les institutions démocratiques qu'ici. Donc la défiance, oui, est le terreau. Et puis il ne faut pas oublier de rajouter que la défiance, c'est un terreau des théories du complot. Les théories du complot, c'est un symptôme de cette défiance. Mais les théories du complot sont aussi un agent actif du creusement de cette défiance. C'est-à-dire qu'elles participent de la crise de confiance. Parce que les théories du complot, leur grand message, c'est de dire on nous ment, les élites nous mentent, les pouvoirs publics, les institutions qui sont chargées de nous protéger normalement, en réalité, font partie du complot. Donc elles nourrissent aussi cette défiance.
Pour souligner ce point, j'aimerais juste, dans deux études avec des collègues qu'on a publiées, on a montré que le premier facteur de prédiction de croyance, de niveau de complotisme au sein d'un pays, c'est le niveau de corruption du secteur public de ce pays. C'est-à-dire que quand on donne aux individus de bonnes raisons d'être méfiants, ils vont être sur-méfiants. C'est-à-dire qu'ils vont être méfiants aussi, non seulement à l'égard de leurs institutions, de leur secteur public personnel, mais ils vont se mettre à croire à des théories du complot qui concernent des pays qui n'ont rien à voir avec le leur. Et donc, il y a une espèce d'hyper-méfiance à l'égard de la vie sociale qui s'instaure dans ces contextes-là. Et c'est là qu'on comprend que, en effet, le nerf de la guerre, c'est l'assèchement du terreau. Et que parfois, certaines configurations, qui n'est pas le cas de la France, en l'occurrence, comme tu le rappelais, ou très peu, sont particulièrement propices à cette défiance. Et donc, il faut essayer de comprendre réellement les raisons du complotisme. Il ne s'agit pas forcément alors il faut lutter quand ça tourne en harcèlement, etc., quand ça met des personnes en danger, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il faut aussi essayer de comprendre ce qui peut motiver les gens de croire à des choses pour lesquelles, très honnêtement, ils n'ont aucune bonne raison d'adhérer.
Et d'y croire, le plus souvent, c'est ce qu'on observe de manière très sélective. C'est-à-dire que nous, ce qu'on observe depuis des années qu'on travaille sur ces questions-là, c'est qu'il y a aussi une motivation politico-idéologique ou autre, psychologique, économique, à croire à ces choses-là et à les diffuser, à les relayer. Ça peut être très politiquement motivé, une théorie du complot.
Et là, puisqu'on a démarré sur Brigitte Macron, c'est totalement politiquement motivé. On est d'accord, ça vise évidemment le président. Donc,
on a affaire à des gens qui portent en boudoulière le droit au doute, mais qui en réalité doutent de tout sauf de leur propre doute, ou en tout cas de leur propre doute exprimé, affirmé. C'est-à-dire que ce dont ils ne se méfient pas, c'est de leur propre méfiance, précisément.
Guillaume est avec nous. Bonsoir, Guillaume.
Oui, bonsoir.
Bienvenue,
bonsoir.
Guillaume.
Merci de prendre mon appel et bravo à France Inter, France Culture, Radio France, super taf.
Merci beaucoup.
Oui, je vous raconter une anecdote, peut-être pas sur le fond, mais sur le contexte, qui m'a beaucoup marqué. Je suis naturaliste, je suis en fait biologiste de formation, et je travaille avec d'autres naturalistes, souvent qui ont fait des études de biologie, donc des scientifiques. Donc ils ont toutes les raisons de pas croire justement que, par exemple, quand il y a eu la période du Covid, ils n'avaient pas de raison de croire que c'était que le vaccin était pas efficace, que c'était un complot, etc. Et pourtant, dans mon entourage proche, au sein de scientifiques, j'ai des gens qui ont cru que c'était des théories complotistes, qui citaient Louis Fouché et tout ça. Et j'avoue, ça m'a vraiment fait peur.
Ouais.
Parce que ils avaient vraiment les moyens scientifiques de faire la part des choses. Ça n'a pas été le cas. Du coup, moi, j'avoue que je suis vraiment effrayé, hein, comme si c'était une contamination, et je ne sais pas trop comment faire. J'ai essayé de discuter avec eux, et ça, j'avoue, ça s'est pas bien passé pour une personne. À l'autre, j'ai dit bon, ok, j'arrête, parce que sinon on sera plus amis.
Ouais.
Mais voilà, je me suis senti désemparé. Je suis quelqu'un de rationnel. En général, j'arrive à discuter facilement avec les gens, mais là, j'ai pas réussi, quoi.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Guillaume. Je pense qu'on a tous, dans toutes nos familles, des témoignages comme ça à apporter autour de cette période. Thomas Huchon, et je trouve que le témoignage de Guillaume, il va dans le sens de ce que disait Rudi Reichstadt et Laurent Cordonnier à l'instant, c'est-à-dire que tout cela résiste aussi parfois à l'intelligence, en fait. À notre propre intelligence. Et ce que nous raconte Guillaume, c'est précisément le moment, en fait. Et on peut aussi être submergé par le moment et la peur du moment, en l'occurrence c'était le Covid, y compris quand on a un cerveau qui fonctionne et qu'on est scientifique.
Mais j'aurais voulu poser une question à Guillaume, s'il est encore en ligne.
Il est là, Guillaume,
Ouais.
Est-ce que Guillaume, ces personnes que vous connaissez, qui ont basculé d'une certaine manière, comme vous le décrivez, est-ce que vous avez ressenti chez eux le fait qu'ils aient l'impression de ne pas être devenus ce qu'ils devaient devenir?
Alors,
d'expliquer peut-être très simplement.
Pas forcément.
Qu'il y aurait une forme de quelque chose, ce serait pas passé comme ils voudraient dans leur vie.
Voilà, et qui suffisait
ils n'arriveraient pas à l'expliquer. Et donc voilà, parce que sans être un facteur systématique, en tout cas chez ceux qui produisent des théories du complot, c'est quelque chose qu'on remarque. C'est-à-dire que c'est une espèce de forme de sentiment d'injustice par rapport à la vie, d'une certaine manière, qu'ils transforment, vu que c'est pas leur faute, parce que comme tout le monde, quand on a été à l'école et qu'on a eu une bonne note, c'était grâce à nous, la mauvaise, c'était à cause de la prof qui nous a saqué. En fait, ce truc-là, ça continue toute la vie. Et en fait, il y a un peu quand même, moi, d'expérience, mais c'est vraiment, pour le coup, pas quelque chose de scientifique. Donc là, je vois, je ne suis pas en studio, mais je vois les yeux de Laurent qui se lèvent. Je les vois.
Non, il rigole.
Il se dit, mais qu'est-ce Hein, mais je crois que j'ai remarqué qu'il y avait quand même une espèce de lien entre la fabrication de théorie du complot, la diffusion de théorie du complot, et un sentiment personnel de ne pas être devenu ce qu'on avait envie de devenir.
Détrompe-toi, c'est tout à fait mesuré. C'est mesuré par la recherche, en effet, c'est ce qu'on appelle le sentiment de frustration relative, ce sentiment que tu décris de ne pas être arrivé ce qu'on pensait devoir arriver à être, et qui est un facteur d'adhésion aux théories du complot. Mais évidemment...
Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on attend l'élément extérieur qui nous permettra de plonger dans ce que on est en train de devenir au nom de cette frustration.
Les théories du complot ont une fonction en fait cognitive dans un certain nombre de cas. Elles permettent en effet de réduire l'angoisse face à certaines situations, parce que dans des situations de grande incertitude, on aimerait bien pouvoir pointer le doigt sur un responsable, un coupable, et les théories du complot servent précisément à ça. Notamment, on peut dire qui est derrière tout ça et qui est aussi derrière potentiellement mes échecs personnels. Après, c'est plus difficile d'expliquer le parcours d'un individu. Nous, on travaille en psychologie cognitive, en sociologie, sur des facteurs statistiques. Évidemment, ça ne veut pas dire parce qu'on a ce sentiment qu'on croit des théories du complot et à l'inverse.
Il y a beaucoup d'auditeurs qui disent, je vois Christophe qui est ici, mais il y en a un autre ici sur WhatsApp qui s'appelle Bois d'Ébène et qui dit les gouvernements utilisent aussi les fake news après tout et ça vrille. Les présidents disent des choses et puis affirment qu'ils ne l'ont pas dit. Trump en est l'exemple le plus fou. On a ici, est-ce que l'institution, l'État politique n'est pas aussi responsable avec ses grands et ses vrais complots qu'elle a menés au fond pour parvenir à ses fins? Et c'est vrai, Rudi Reichstadt, qu'on se prend un peu le mur avec cet argument-là, parce que, bien sûr, qu'il y a des gouvernements et des politiques qui nous ont inventé de fausses histoires. Enfin, l'histoire américaine en est pleine, notamment, et la nôtre aussi.
Mais alors, le cas de Donald Trump, c'est un cas un peu paradigmatique, parce que c'est un complotiste qui est arrivé au pouvoir, pour le coup. C'est pas la règle. En démocratie, en général, quand ça va bien, par ailleurs, on n'a pas à la tête de nos États des gens qui sont des complotistes échevelés. Dans les démocraties libérales, en général, on n'utilise pas la propagande, la désinformation pour déstabiliser d'autres États, la société. Le mensonge est quand même à un coût politique, il est sanctionné, ne serait-ce que dans les urnes, et sinon par la loi. C'est vrai que c'est pas le cas dans d'autres formes de régimes politiques. J'ai un cas en tête d'une démocratie qui utilise la désinformation, c'est les États-Unis sous Donald Trump en 2020, qui a mené une campagne aux Philippines pour dénigrer le vaccin chinois. Et cette campagne est bien documentée, c'est sorti dans la presse américaine, donc la presse, les contre-pouvoirs démocratiques ont fait leur travail, et c'est une campagne qui a été interrompue par Joe Biden lorsqu'il est arrivé au pouvoir quelques mois plus tard, en 2021. Et c'est une campagne qui a eu des effets aux Philippines en termes de confiance dans les vaccins, précisément. Mais c'est plutôt l'exception que la règle. La grande autre exception qu'on connaît en démocratie, c'est sur le fameux mensonge américain sur les armes d'exécution massive en Irak. Voilà, en 2003, bon. Mais, vous voyez, on a quand même une presse qui fait globalement son travail, qui n'est pas au-dessus de la critique, mais qui globalement fait son travail et qui montre quand ces manipulations existent, qu'elles existent, qui les documentent, etc.
Regardez ce message de Marie qui nous arrive sur WhatsApp et qui dit ceci. Je ne crois pas en la rumeur qui vise Brigitte Macron, mais... Elle me fait penser à la rumeur de la fille cachée de Mitterrand. La rumeur circulait, elle a été démentie, et puis il s'est avéré que c'était vrai, dit-elle. Des fois, les médias choisissent des infos qu'on peut nous donner à une période donnée, et donc c'est compliqué de démêler le vrai du faux. Alors moi, je veux bien que les médias, évidemment, balayent devant leur porte sur un certain nombre de choses qui étaient sues et pas dites, etc. Mais ce qui est fou, c'est que l'histoire de Brigitte Macron, là, par exemple, on l'inclut dans ce tout-là, alors quand même, on est quand même dans une sacrée autre dimension, y compris qu'une fille cachée, ce qui était déjà un gros truc quand même. Enfin, ça dit quelque chose de l'époque, Laurent Cordonnier.
C'est l'argument du vrai complot dans l'histoire. Il y a eu des vrais complots. Mais ce qui est toujours intéressant de relever, c'est que jamais aucun complotiste a déniché un vrai complot.
Oui, c'est vrai ça.
Ceux qui les ont mis au jour, ce sont des chercheurs, ce sont des historiens, ce sont des journalistes, ce sont des policiers, des juges, etc. Et donc, ça ne veut pas dire que les complots n'existent pas. Ça ne veut pas dire que dans les démocraties libérales, le personnel politique serait parfaitement moral et toujours exemplaire. Je vous rappelle qu'on on a un ancien président qui dort en prison actuellement. Tout ça ne veut pas dire que les complots ne sont pas possibles, n'existent pas. En revanche, ce que ça dit, c'est que pour pouvoir prouver l'existence d'un complot, il faut un peu plus que trois photos analysées du coin de l'œil en disant la dame a un menton un peu carré sur celle-là, etc. etc.
Ouais, mais ce qui est fou, pardon, je vous interromps, Laurent, mais ce qui est fou, c'est que ce qu'on a entendu, y compris pendant ce procès, mais même avant, puisque en effet, cette histoire, elle tourne depuis longtemps, c'est il suffirait qu'elle le prouve. Il y a même au procès eu un truc du genre, il suffit qu'elle montre une photo d'elle enceinte et puis on en finit.
Ce qui ne changerait rien, évidemment.
Non seulement ça ne changerait rien, mais alors pour le coup, je trouve ça encore plus violent même que l'accusation elle-même, que d'être obligé de la prouver d'une manière ou d'une autre.
Oui, ce serait extrêmement violent. Et de toute façon, n'importe quelle preuve, entre guillemets, qui serait apportée, il n'y a pas à le prouver, mais de toute façon, voilà, n'importe quelle preuve serait retournée en disant l'image est fausse, le test a été modifié. Donc, c'est une des définitions, un aspect central de la théorie du complot, c'est que précisément, ce ne sont pas des théories au sens scientifique, c'est-à-dire qu'elles sont infalsifiables. Une théorie scientifique, elle est qualifiée de scientifique à partir du moment où on peut montrer avec des données qu'elle n'est pas vraie. Elle peut être soumise à la critique et tomber. Une théorie du complot ne peut jamais tomber parce qu'elle est complètement amorphe, elle va se reconfigurer, on va trouver une explication ad hoc à chaque fois pour chaque élément qui la contredit.
La meilleure preuve d'ailleurs de l'existence du complot, c'est qu'on ne peut pas le prouver, c'est dire à quel point il est puissant et
c'est
omnipotent.
C'est ça, voilà. Mais du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on dément, c'est que donc du coup, forcément, on n'est coupable puisqu'on essaye de... si on ne dit rien, c'est encore pire.
C'est un jeu auquel on est toujours perdant. C'est pile je gagne, face tu perds, parce que de toute façon, et d'ailleurs sur l'affaire Brigitte Macron, elle est très emblématique de ça. C'est-à-dire qu'au départ, on nous dit, les complotistes nous disent, mais si c'est faux, elle n'a qu'à porter plainte.
Exactement.
Bon, elle porte plainte. Là, on dit, ah non, mais c'est scandaleux, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Et puis, de toute façon, les juges n'ont rien prouvé. Et puis là, sur la procédure américaine, où la charge de la preuve est inversée, elle doit apporter la preuve, y compris la preuve d'ordre médical, qu'elle est bien biologiquement une femme. C'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis quand même. Mais même ça, ça ne convaincra jamais ceux qui n'ont pas envie d'être convaincus, parce qu'on est face à la propagande complotiste, on est dans le cadre d'une guerre d'attrition. Il s'agit vraiment de d'épuiser l'adversaire et tout ça, et de le forcer à se justifier pour quelque chose auquel, au fond, on ne croit même pas réellement.
Bruno est avec nous. Bonsoir, Bruno.
Oui, bonsoir.
On vous a fait patienter longtemps, Bruno, je m'excuse, on vous écoute.
Oui, en entendant vos invités, j'ai deux réflexions et une question, s'il vous plaît. La première réflexion, c'est en croisant les deux paramètres que vos invités ont énoncés, à savoir la frustration relative et la confiance que l'on a en le pouvoir du pays dans lequel on habite. Il se trouve que j'ai habité à la fois en Finlande, à Helsinki, pendant plus de 2 ans, et en Argentine, à Buenos Aires, pendant plus de 5 ans, sur des postes cadres dans le culturel. Mmh. Eh bien, je me suis rendu compte qu'en Finlande, il n'y a quasiment pas de foi en les réseaux sociaux et de complots, parce qu'ils ont une confiance énorme dans leur pouvoir, dans leurs députés, dans leur gouvernement. En Argentine, vous savez ce qui se passe. Et il y a énormément de théories du complot. Mmh. Mais j'avais appelé, voilà, ça c'est un premier constat, et c'est vrai que ces deux paramètres sont absolument vérifiables, j'ai pu le constater. La deuxième chose, c'est que je disais au Standard en appelant que Umberto Eco disait que les réseaux sociaux ont généré une société d'idiots, parce qu'aujourd'hui, un prix Nobel a la même tribune qu'un crétin. Et c'était là vrai. Par contre, je crois qu'on peut lutter. Je suis un tout petit peu âgé, j'ai dépassé les 65 ans, et j'ai connu la génération où on disait que la télé nous rendrait abrutis. Et il y avait des programmes scolaires qui s'appelaient le JTA, Jeune Téléspectateur Actif, où on enseignait aux gamins en classe à distinguer qu'un plan en contre-plongée rendrait l'interviewé méchant parce qu'il dominait la caméra, qu'inversement, un plan en rendrait l'interviewé gentil parce qu'il est dominé par
l'interview. Donc, le retour à l'éducation aux médias dont on parlait effectivement en début d'émission. Ouais.
Exact. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour essayer d'éduquer notre jeunesse, d'éduquer le public, pour éviter d'avoir des Trump qui a un registre lexical d'un gamin de 14 ans et qui est arrivé au pouvoir.
Merci. Merci à vous, merci beaucoup Bruno pour votre question. C'est pour vous Thomas Huchon, parce que j'en ai une par-dessus de questions. Oui. Et j'en ai une par-dessus parce qu'on l'a un peu zappé dans la question précédente, mais on a quand même envie que vous nous expliquiez comment on fait face à quelqu'un qui croit dur comme fer à une théorie complotiste, comment on fait, est-ce qu'on cherche à le débunker et comment on fait. Okay. D'abord la réponse à Bruno.
D'abord la réponse à Bruno. Alors il faut faire de l'éducation média et le plus tôt on le fait, le mieux ça marche. C'est-à-dire qu'en réalité, si on avait des programmes d'éducation aux médias dès le CM1, CM2, on sauverait très 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 rapidement l'immense majorité de nos jeunes face à la désinformation avec des programmes efficaces dès le plus jeune âge. Le plus jeune on le fait, le moins on a besoin de le faire plus tard. Et le problème aujourd'hui auquel on est confronté, c'est qu'on se trompe sur les théories du complot et les fake news. On pense que ça touche les jeunes et uniquement les jeunes et que c'est un problème de jeunes. Potentiellement même de jeunes à casquette dans le 93. La réalité des chiffres que moi j'ai pu obtenir en faisant de l'étude autour des 20 principales théories du complot sur les 5 dernières années, c'est que déjà ça représente 15 milliards de vues. Donc en gros, les fake news en français depuis 5 ans, c'est 15 milliards de vues sur les réseaux sociaux. Ce qui est colossal, parce qu'on n'est que 15 millions à être sur Twitter, qui est l'outil qu'on arrive à mesurer. Ce qui fait qu'en moyenne, on a vu chacun 1000 théories du complot ou fake news passer devant nos yeux, ce qui est quand même pas rien. Mais que sur ce volume-là, les jeunes ne représentent que 12% des partages. Mmh. 88% des fake news partagées depuis 5 ans dans notre pays sur les réseaux sociaux le sont par des gens qui ont plus de 25 ans et qui sont persuadés d'être capables de vérifier une info. Mmh. Le problème, il est là. Mmh. Donc, bien entendu qu'il faut faire de l'éducation aux médias. Mais il faut que les adultes, nous tous, nous comprenions que nous avons un problème avec l'information, avec les réseaux sociaux, et que nous sachions déjà que sur ces réseaux sociaux, il circule des mensonges. Si on se dit qu'on va faire une balade en forêt et que c'est très cool, ouais, mais s'il y a des loups, c'est pas la même promenade. Et bien les réseaux sociaux, c'est pareil. Il y a des loups, c'est les fake news. Donc sachez qu'il y a des fake news sur les réseaux sociaux et que les auditeurs l'entendent. Mmh. C'est aussi à ça que sert votre émission, Fabienne. Alors, donc je veux faire passer ce message. Et le deuxième, c'est que le premier problème face aux fake news, c'est qu'on a envie d'y croire. Mmh. on a tous nous-mêmes un peu envie d'y croire.
Enfin, ça dépend lesquels, hein, franchement.
Essayons de nous méfier un peu de nous-mêmes, de nous méfier un peu de nos propres croyances, de nos propres préjugés, de nos propres opinions, parce que ces réseaux, ils jouent là-dessus. Ils ont compris comment on fonctionnait, et ils nous montrent que des choses qu'on croit déjà un peu, que des choses qui vont dans le sens de ce qu'on croit déjà un petit peu. Et donc, ils ont compris comment nous manipuler d'une certaine manière. Il y a les complotistes qui nous manipulent, c'est certain, mais il y a les algorithmes qui jouent un piège invisible pour nos yeux et qui ont un impact absolument colossal sur à la fois la manière dont on s'informe, mais aussi sur la démocratie. Cette histoire Brigitte Macron, ça permet quand même, grâce à ces formules mathématiques et grâce aux nouvelles manières de s'informer, à 125 000 personnes depuis un an, d'avoir touché avec leur message sur Brigitte Macron 2 milliards de personnes. La ville de Nantes a touché l'Inde et la Chine, Fabienne. Ouais. Rendez-vous compte de ce que ça veut dire. Ouais. C'est colossal en termes
mais
d'impression
après,
sur le cerveau.
Il y a aussi il a raison Thomas Hucheau quand il dit Rudi Reichstadt ou Laurent Cordonnier quand il dit qu'il n'y a pas que les enfants évidemment, donc on est là en train de dire il faut interdire les réseaux sociaux aux enfants, etc. Mais effectivement si les adultes réfléchissaient un peu ce serait encore mieux. Donc il y a effectivement cette idée-là, mais il y a aussi dans quoi on se vautre. Enfin, ce que je veux dire, c'est que moi, cette rumeur, Brigitte Macron, je ne l'ai jamais vue sur mes réseaux sociaux. Elle n'est pas venue jusqu'à moi, quoi. Elle n'a pas touché mon algorithme. Mais c'est parce que je ne vais pas les chercher aussi. Enfin, il y a aussi, encore une fois, ce dans quoi on aime se vautrer, non, Rudi Reichstadt ?
Vous n'avez pas besoin vraiment d'aller les chercher, parce que les théories du complot, elles ont cette spécificité d'être sensationnalistes. Quand on vous explique, on va vous révéler la vérité sur tel ou tel sujet, la forme de la Terre, ou la mort de telle ou telle personnalité, ou un autre sujet, vous avez envie de cliquer, vous avez envie de le voir. Et on sait que les algorithmes de recommandation de ces plateformes, pour optimiser le temps qu'on passe connecté à ces plateformes, c'est leur modèle économique, elles donnent une prime de visibilité à ces contenus sensationnistes et donc aux théories du complot. Donc plus on est connecté, plus on a d'usages informationnels liés aux réseaux sociaux, plus on adhère à ces choses-là. C'est pour ça que les jeunes y adhèrent un peu plus, en tout cas significativement plus que, en gros, leurs grands-parents, que les seniors. Mais évidemment, le problème se pose dans toutes les tranches d'âge, et l'âge ou la génération n'immunisent pas contre la croyance aux fake news ou aux théories du complot.
Bonsoir Hugo.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors moi, je me disais, tout à l'heure, vous avez parlé de gens qui ont basculé vers le complot. Et en fait, cette expression, elle m'a fait réagir. Et je me demandais comment on peut éviter d'avoir une rupture entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Alors quelque chose d'assez binaire et du coup une défiance des uns envers les autres. Parce qu'au final, comme vous l'avez dit aussi, les gens qui croient au complot, c'est du confort, c'est du réconfort, c'est la conséquence des mensonges qu'ils ont entendus. Voilà. Donc c'est pas forcément tous des gens sincèrement mauvais. Voilà comment on essaie de discuter entre nous. Parce qu'en plus, les complotistes, eux, ils vont utiliser cette défiance en disant, voilà, en face, c'est la bien-pensance, c'est la pensée officielle, et ils vous prennent pour des...
Ce qui est exactement ce qu'on entendait, je comprends ce que vous dites, Hugo, c'est exactement ce qu'on entendait Laurent Cordonnier pendant le Covid, mais ça, c'est la pensée officielle, effectivement, on vous fait croire que, etc. On a même ici un message qui nous dit, il faut bien spécifier qu'il ne faut pas confondre le complotisme et la nécessité d'obtenir des réponses. Pendant la crise Covid, par exemple, il y avait des réponses légitimes, etc. Donc, cette frontière, elle est, pour certaines personnes, plutôt floutée. Donc, comment on fait, est-ce qu'on s'assoit et on discute
Je pense qu'il y a déjà un réflexe qu'il faut avoir, c'est de ne pas stigmatiser des personnes. Le terme théorie du complot, c'est un terme qui permet de désigner, et c'est d'ailleurs pas le meilleur des termes qu'on ait trouvé, mais voilà, c'est pour des raisons historiques, mais qui permet de désigner l'adhésion à certains types de croyances qui ont des caractéristiques particulières. Donc avant tout, c'est un outil de recherche. Aujourd'hui, c'est devenu une invective, et on va se jeter l'invective complotiste au visage l'un l'autre, etc. Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt en tant qu'invective, comme souvent pour une invective. Donc je pense que ce qu'on doit essayer de faire, c'est de comprendre les raisons. Et ces raisons, on l'a un peu évoqué jusqu'à présent, mais elles sont de plusieurs ordres. Il y a des raisons qui sont strictement personnelles et parfois même psychopathologiques. Dans certains cas, voilà, il y a des gens qui ont des tendances paranoïaques, qui ont tendance, la recherche le montre, à croire plus à des théories du complot. Mais il y a aussi des raisons sociales, évidemment, des raisons cognitives, toutes sortes de facteurs, des raisons informationnelles, la forme des algorithmes, etc. Donc je pense qu'il faut en effet pas faire de distinction entre les complotistes au sens de du terme et le reste de la population. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a réellement des personnes qui basculent dans un sens très précis, c'est-à-dire des personnes qui se coupent de leur environnement social, un peu comme on le ferait dans un environnement sectaire. On a des témoignages autour de nous assez régulièrement, et je pense que Redut y en a aussi, de personnes qui tout à coup se trouvent à ne plus pouvoir discuter avec leurs proches, qui se retrouvent elles-mêmes isolées de leur famille parce qu'elles reviennent sans arrêt avec leurs obsessions complotistes lors des repas de famille, etc., à tel point qu'un jour les autres les rejettent. Et on a eu des témoignages comme ça pendant le Covid de personnes très sincèrement touchées et blessées de ne pas être invitées pour les fêtes de fin d'année par leur famille, parce qu'ils en ont marre d'entendre leur récit. Donc ça traduit aussi une souffrance. Et je pense qu'il faut aussi, l'entendre. Après, là où la distinction, il faut la faire très clairement, c'est entre les gens qui croient à des théories du complot, on peut tous croire à un certain nombre d'entre elles d'ailleurs, ça peut tous nous arriver, mais les distinguer des entrepreneurs en complot. Il y a des gens qui produisent des théories du complot pour en retirer un bénéfice, que ce soit un bénéfice économique ou un bénéfice de notoriété, pour vendre des livres, pour se faire voir, etc., et qui, ces gens-là, manipulent le reste de la population, qui ne croient pas du tout à ce qu'ils racontent et qui n'ont aucun intérêt dans ce qu'ils racontent, mais qui veulent se faire mousser par là, qui veulent en tirer. Et ça, c'est ce qu'on appelle en recherche des entrepreneurs en complot. Et ça, c'est les personnes que, par contre, on peut considérer comme des adversaires et pas des victimes.
On a Vincent sur WhatsApp qui dit « J'ai 35 ans et j'ai un employé du même âge que moi, d'ailleurs, qui est très sensible aux théories du complot. Je crois qu'il faut écouter, nous dit Vincent, il faut essayer de comprendre, mais en demandant des preuves, pas des faisceaux pas des faisceaux fumeux d'indices. Pardon. Petit à petit, je crois qu'il comprend qu'il est facile d'avoir des fantasmes, mais beaucoup plus que de construire un vrai complot. » La discussion, elle dit ça aussi. Tu l'as lu où ? Qui l'a dit ? Absolument. Tu l'as trouvé comment ?
C'est
ça, vient d'où ? Etc. Enfin,
Ça
c'est pas que de l'éducation média pour les enfants, c'est de l'éducation média pour tous âges.
Mais la pédagogie, c'est répétition. Donc il faut marteler ces messages-là, expliquer ce que c'est que de s'informer correctement. C'est un peu, si on peut filer cette métaphore-là, comme la malbouffe, la malinformation. C'est-à-dire que si vous voulez vous informer uniquement des sources frelatées, mais à la fin, vous allez être intoxiqué. C'est exactement la même chose que si vous mangez tous les jours mal. Ouais. Voilà. Donc, peut-être la première des choses à faire, si on veut s'informer correctement, c'est de se respecter soi-même et de se dire qu'on a un temps limité pour s'informer chaque jour. C'est précieux. Donc, essayons de l'orienter, ce temps-là, vers des sources les plus fiables possibles.
Thomas Huchon, juste, il nous reste 10 secondes. Juste, est-ce que, du coup, cette histoire, par exemple, ce procès Brigitte Macron-là, on se dit, après tout, ça pourrait être utile, pourquoi pas, et peut-être un autre même, ou est-ce qu'on se dit que ça peut être une balle dans le pied, très très vite ?
Je vais vous dire ce que je pense désormais, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura une théorie du complot, il faudra la déconstruire, en parler le plus rapidement possible, le plus vite possible, le plus fortement possible, pas pour ceux qui y croient, mais pour l'immense majorité de nos concitoyens qui sont indécis sur ce sujet et à qui nous laissons seuls les complotistes leur expliquer ce qui se passe dans l'affaire Brigitte Macron. C'est ça le problème de l'affaire Brigitte Macron.
Merci.
C'est qu'on a laissé les complotistes la raconter aux Français. Si on l'avait raconté avec des vrais journalistes, ça n'aurait pas tenu 4 secondes.
Merci beaucoup, mais les vrais journalistes à un moment se sont dit mais on va pas raconter ça, ça n'a aucun sens, et on finit par c'est un peu le diable qui se mord la queue. Merci à tous les trois, merci vraiment. Merci.